respecte, bien que j'ai bien entendu ce qui vient d'être dit, je vais être obligé de revenir un peu avant 1919, on est bien d'accord. Et il faut comprendre les relations franco-allemandes dans une perspective, ça ne marche pas ? Voilà. Non, là, ça, faut dire que ça ne marche pas, là. On n'entend rien du tout. Quand je tape...
Il y a un petit...
il y a un petit...
Attendez, ouais. Edouard.
Ah ouais, ça a l'air.
Allez-y, parlez.
Oui, donc...
Oui. Mais j'ai mis le son, le truc tout juste.
Ah. Bon, j'aimerais quand même, même si je ne veux pas revenir sur les problèmes des causes de la guerre, il y a quand même des choses intéressantes. Je rappelle le contentieux. Je rappelle que l'Allemagne, c'est une entité récente. Hein. Ça date de 1871. Avant, il y a combien d'Allemagne ? Disons, jusqu'à Napoléon, il y en a 400. Il y a 400 Allemagnes. Napoléon entre à Berlin en 1806. Et à Berlin, il détruit le Premier Reich, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique. Il le détruit. Donc, 1806, c'est la fin du Reich millénaire qui remontait à la fin du Xe siècle. Il crée la Confédération du Rhin. La Confédération du Rhin a 39 États au lieu de 400. Le principal État étant la Prusse, qui est un État marginal, puisqu'il est à l'est de ce qu'on appelle le Saint-Empire, et même une partie de la Prusse est hors du Saint-Empire. Et en 1815, au congrès de Vienne, qui est le grand congrès qui organise l'Europe, avant même Waterloo, le congrès de Vienne donne à la Prusse la rive, on peut dire, la rive droite du Rhin. C'est-à-dire que désormais la Prusse a une partie historique qu'on appelle la Prusse, le Brandebourg, et une partie conquise, c'est-à-dire la rive droite du Rhin, avec toutes ces villes comme Cologne, qui est la ville principale. Qui est... Alors il y a une opposition entre la Prusse qui est protestante et la rive droite du Rhin qui est catholique. Entre la Prusse historique qui est militaire et la rive droite du Rhin qui est commerçante, qui est faite de commerçants. Là, il est évident que la Prusse va chercher à faire l'unité allemande. Celle qui va la faire en éliminant l'Autriche, qui devient en 1866 la Prusse bat l'Autriche, et l'Autriche devient Autriche-Hongrie. Donc une erreur monumentale de parler d'Autriche-Hongrie avant 1867. À partir du moment où l'Autriche-Hongrie est battue par la Prusse, il est évident que l'Autriche-Hongrie ne regarde plus vers l'Allemagne. Elle regarde vers le sud, c'est-à-dire vers Sarajevo. Vers Sarajevo. Et on a déjà la guerre en perspective. Après avoir battu l'Autriche, l'homme fort qui s'appelle Bismarck, qui est le très grand Allemand, qu'on aime ou on n'aime pas, je dirais plutôt qu'il est plutôt dangereux comme personnage, mais c'est un très grand Allemand, il comprend que pour faire l'Allemagne, le Deuxième Reich, pour faire le Deuxième Reich, il faut éliminer un adversaire, et cet adversaire, c'est la France. Et la France est battue après cette guerre mal commencée, mal ficelée, comme d'habitude, les Français se lancent dans une guerre sans être vraiment préparés, ils sont battus à la suite de différents combats, et Napoléon III abdique, la République arrive, bref, c'est le traité de Francfort en mai 1871, et avant même cette date, dans la Galerie des Glaces de Versailles, est proclamé le Deuxième Reich. Donc l'Allemagne s'est faite par le sang et la violence. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Allemagne si on ne comprend pas comment elle s'est faite. Elle s'est faite par la violence et par le sang, et non pas par l'adhésion. Donc à partir du moment là, la France est amputée, on le voit sur cette carte, de l'Alsace et de la Moselle. De l'Alsace et de la Moselle. Aujourd'hui, je reviens là-dessus, parce que ça m'étonnerait que le collègue qui vous a fait connaisse le livre qui vient de sortir, qui est le livre d'un Australien, qui s'appelle Christopher Clark. C'est le livre qu'il faut lire. Ça s'appelle « L'été 1914, l'été 14, l'Europe des somnambules ». L'Europe des somnambules. C'est génial comme titre. C'est génial comme titre. Un gros livre, 500 pages, qui remet en cause les responsabilités de la guerre. Aujourd'hui, il est clair que les choses sont beaucoup plus réparties. On a voulu que ce soit l'Allemagne responsable de la guerre. Aujourd'hui, il est clair que dans ce livre, qui est un succès fou en Allemagne, puisque c'est la sixième édition qui vient d'être faite, et les Allemands dévorent ce livre, puisque ça les dédouane d'une responsabilité, même si ce livre est débattu, aujourd'hui, les responsables vraiment de la guerre, c'est la Serbie, qui n'a toujours pas livré ses archives de la guerre de 14. C'est le seul pays pour lequel on ne connaît pas les archives de la guerre de 14. La Russie, qui est en train de muter sur le plan militaire. La France de Poincaré. Poincaré est un va-t-en-guerre. Poincaré est un va-t-en-guerre. Et pas du tout un pacifiste. Donc Poincaré n'a pas arrêté les Russes dans leur démarche à la guerre, dans la mobilisation, puisque Poincaré était à Saint-Pétersbourg vers le 23 juillet 1914. Donc il a laissé les Russes monter. Et bien évidemment, l'Allemagne, qui est alliée à l'Autriche-Hongrie, qui elle-même veut en découdre avec les Serbes. Qui veut en découdre avec les Serbes, puisque les Serbes veulent réaliser la Grande Serbie. Et pour la Grande Serbie, il faut réunir la Bosnie-Herzégovine que l'Autriche-Hongrie a annexée en 1908. Donc, on en est là. Alors, aujourd'hui, ce qui est à peu près clair, personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Et pourtant, la guerre va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va partir dans une sorte de somnambulisme et subitement, on va se réveiller et la guerre est là. Et la guerre est là et cette guerre... On la connaît, elle devient grande, la Grande Guerre, Première Guerre mondiale et autres. Il est évident que cette guerre se termine par une victoire des Alliés, dans lesquels la France est présente, le Royaume-Uni, mais plus les Russes, puisque les Russes ont fait une révolution et sont sortis de la guerre plus tôt, ils sont sortis de la guerre en décembre 17. Sont dans la victoire des pays comme l'Italie, qui est rentrée tard dans la guerre en 1915, sont dans la victoire la Roumanie, qui a été malmenée par la guerre, qui a été envahie par les Bulgares et par les Autrichiens, sont dans la victoire les Japonais, qui sont de notre côté, qui en ont profité pour piquer les colonies allemandes dans le Pacifique, les Chinois sont du côté des Alliés, bien sûr. Bon, tout ça fait qu'il y a, et puis, du côté des méchants, et du côté des perdants, il y a l'Allemagne, le Deuxième Reich, il y a l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, et pour terminer, la Bulgarie. Alors, il y a, je cherche, puisque j'avais volontairement éliminé cette carte, mais il me semble intéressante à rappeler quand même, je vais la trouver puisque je l'avais écarté, voilà, c'est celle-ci. Non, c'est bon. Cette carte montre les armistices qui veulent avoir lieu. Donc, on connaît tous l'armistice du 3 novembre 18 pour l'Autriche-Hongrie, 3 pour l'Autriche, le 13 novembre pour la Hongrie, le 11 novembre pour l'Allemagne, le 29 septembre pour la Bulgarie et le 30 octobre, en effet, pour l'Empire ottoman. Je rappelle que l'Allemagne a perdu la guerre sans voir un seul soldat sur son sol. Un seul soldat. Donc, on peut s'interroger quand même si on est allemand, pourquoi on a perdu la guerre ? Nous, quand on a perdu la guerre, on a vu les étrangers être chez nous. Que ce soit en 1815 ou que ce soit en 1940, on les a vus. il est évident que l'idée qui va être reprise par la suite, qui a perdu la guerre, les socialistes et les juifs. Et les juifs. Qui nous ont fait perdre la guerre, bien évidemment. Qui nous ont donné, ce qu'on dit en Allemagne, un coup de couteau dans le dos. Un coup de couteau dans le dos. C'est une erreur monumentale de ne pas avoir envahi l'Allemagne en 1918. Il fallait montrer aux vaincus qui était le vainqueur. Qui était le vainqueur. Donc là commence mon exposé. La guerre est terminée. On a gagné la guerre. On va perdre la paix. Et on va perdre la paix. C'est rien de gagner une guerre. Il faut gagner la paix. Et la paix, on va la perdre. Et ça, c'est une chose à méditer et que tout le monde médite depuis. Ça ne sert à rien de gagner une guerre si on ne gagne pas la paix. Alors, la paix, ça va être ma première partie. Il y aura quatre parties dans les relations franco-allemandes jusqu'en 1963. La première partie, j'appelle ça la détestation. La détestation entre la France et l'Allemagne qui va durer de 1919 à 1924. D'abord, là, j'ai un texte assez intéressant d'un Français qui fait la guerre, qui s'appelle Pierre Navarre. Et voilà comment il décrit, c'est un aspirant dans le génie. Nous arrivons à la deuxième nuit de Bosch. Au début, Bosch n'est pas obligatoirement un mot méprisant. Ce n'est pas un mot péjoratif, Bosch. Ça vient d'une sorte d'approche de, population. Il y a des populations allemandes qu'on appelait les Alboches. Les Alboches. Donc, de Alboche, c'est passé Bosch. Au départ, c'est pas. Ils tombent moins d'obus. Ils craignent de tirer sur leurs troupes. Alors, vous allez voir la suite. Les capotes grises sont en fuite. Les capotes grises, c'est les Boches. On en voit de tous les côtés qui sautent comme des petits crapauds. Les Boches, des crapauds. J'ai ramassé le fusil d'un mort et je transperce un boche de ma baïonnette. Sensation pénible et curieuse. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'expérience de ça, ça doit être assez bizarre. Nous nous répandons dans toutes les cagnas, les misérables, en sorte les mains en l'air. Nous sommes en 1915. Hein. Le visage décomposé par la peur, le boche décomposé par la peur. On serait à moins. Camarades, Français, pas caput. Il rapporte le Pierre Navarre, comme ils sont dégoûtants. Ce qu'il dit, ici on recommence à rire, mais pas pour longtemps. Donc, ce Pierre Navarre qui sera tué, il écrit à son père et sa lettre, c'est cher papa, chère maman. Il est évident qu'on sort de la guerre avec une France d'anciens combattants. Il y a eu, on peut dire, 8 500 000 mobilisés. 8 500 000 mobilisés, la France fait 40 millions d'habitants, on peut estimer qu'il y a 19 millions d'hommes, 21 millions de femmes, toujours plus de femmes que d'hommes. À la sortie, il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et il y a eu à peu près 1 400 000 morts du côté français, 2 millions du côté allemand. 2 millions du côté allemand. Obtour, il faut ajouter 1 million de gueules cassées, des estropiés, des amputés. Il suffit d'aller au musée de Vincennes, au musée de la Défense à Vincennes, voir la collection de photos de gueules cassées qu'il y a. Vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché. C'est assez atroce. L'homme qui va gérer le traité a lieu vers la conférence de la paix ouvre à Paris en janvier 1919. Qui sont les hommes forts ? Clémenceau. Clémenceau, avant j'avais un certain amour pour Clémenceau. Clémenceau, c'est un vieux pénible, c'est un vieux chien, Clémenceau. D'abord, il hait les Allemands. Il hait les Allemands. En plus, il a d'eczéma partout et il se gratte tout le temps. Il se gratte tout le temps, il a des gants blancs. Il en permanence, il est donc comme quelqu'un qui a d'eczéma, il est excité, ça l'énerve. Il ne mange rien que des œufs, de la bouillie et boit du lait. Voilà. Donc, c'est un caractère infernal, infernal, Clémenceau. On en fait une idole parce que c'est le père de la victoire, ça, il faut lui reconnaître, mais c'est un personnage, mais d'une violence. Et on peut dire qu'une partie de la guerre de 40 lui est imputable. Il va casser l'Allemagne. Il veut casser l'Allemagne. Et comme il dit, je veux faire je veux presser le citron allemand jusqu'à ce que les pépins craquent. Voilà. Donc, à côté de ça, il y a Wilson, l'Américain. C'est un Américain. Il connaît rien à l'Europe. Il comprend rien à l'Europe, comme maintenant, les Américains ne comprennent toujours rien à l'Europe. Ils ne savent pas ce que c'est que cette Europe, c'est compliqué. Puis quand on lui montre une carte, l'Amérique, quand on va de l'ouest à l'est, c'est 5000 km, à part les grandes plaines, les rocheuses, c'est toujours les mêmes. En Europe, vous faites 50 km, vous passez chez les Ruthènes, après vous passez chez les Roumains, chez les Bukovins, chez la Dobroudja, la Bessarabie. Oh là, plus on va à l'est, plus c'est compliqué. Il suffit de voir l'Ukraine aujourd'hui, comme c'est compliqué. Donc, les Américains ne comprennent rien. Et puis, lui, il est préoccupé par ces 14 points, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la diplomatie est ouverte. Et puis, il a des problèmes, il rentre aux États-Unis souvent. Donc, l'homme qui tient la conférence, c'est Clémenceau. Troisième, c'est Lloyd George. Lloyd George, l'anglais, très british. Très british. Très british, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à Paris pour s'amuser. Il se méfie des Français, ce qui est typiquement anglais. Il ne faut pas que les Français en profitent. Il ne faut pas que les Français tirent la couverture, disons, de cette histoire de victoire. Car les Français, quand même, c'est eux qui assument la victoire, qui ont fait le plus gros effort, qui ont eu le pays le plus abîmé, et bien entendu, qui sortent la plus grande armée du monde à l'époque. On a la plus grande armée du monde. Et puis, il y a l'Italien Orlando qui va se fâcher rapidement, puisqu'il se heurte aux Américains qui ne veulent pas donner aux Italiens ce qu'on appelle, j'adore cette phrase, les terres irredentes, les terres italiennes, c'est-à-dire la Croatie. C'est ça pour les Italiens, la Croatie. C'est-à-dire les possessions de Venise, la République de Venise. Donc les Italiens vont se brouiller rapidement, ils vont être hors jeu. Donc c'est Clémenceau qui va appliquer le fameux traité de Versailles, 28 juin 1919. Ce traité de Versailles, les Allemands, on leur fait part du traité de Versailles le 17 juin. Ils n'ont pas été associés du tout. Le 17 juin, ils ont jusqu'au 22 pour le découvrir. Et il faut qu'ils le signent avant le 26. S'ils ne le signent pas, on les envahit. Donc les Allemands vont signer un traité qui les rend, article 241, responsables de la guerre. Voilà. L'article 241 est un article responsable de la guerre. Alors, cet article va... bien évidemment, à mettre en place une Allemagne coupée en deux par un couloir, le fameux couloir de Danzig, avec une Allemagne qu'on appelle la Prusse orientale et l'Allemagne, et entre les deux se glisse la Pologne, qui n'existait pas en 14, et à qui on attribue le couloir qui va sur la Baltique, et au bout de laquelle il y a la ville de Danzig, qui est une ville peuplée d'Allemands. Ça nous rappelle la Crimée, peuplée de russophones. Voilà, bien sûr. Et cette couloir de Danzig, avec cette ville de Danzig, la SDN, la Société des Nations, que les Américains ont voulu, n'a pas de force militaire. Donc elle est sous le contrôle de la SDN, qui est une association de gentils garçons et de gentils parleurs, mais qui n'ont pas de capacité à faire appliquer le traité. Voilà. Donc c'est encore un truc complètement désuet. Alors on s'aperçoit que la Pologne, la Russie, qui est coupable, puisqu'elle a trahi les alliés, la Russie perd tous ses territoires en pointillés, donc la Pologne va énormément vers l'Est, et tout ce qui est en pointillés, ce sont tous des contentieux territoriaux. Ça veut dire qu'ils montrent que la guerre, parce qu'il n'y a pas que le traité de Versailles, tous les traités qui vont être faits avec l'Empire ottoman, avec la Bulgarie, avec l'Autriche, avec la Hongrie, sont tous des créations de contentieux qui vont créer des problèmes avec les pays riverains. Il est évident que, par exemple, le pays qui est le plus perdant de la guerre de 14, c'est la Hongrie. C'est évident, c'est la Hongrie. C'est un pays qui a été humilié, la Hongrie. Inadmissiblement humilié. On lui a piqué une grande partie qu'on donne aux Slovaques, d'où la Tchécoslovaquie, une partie qu'on donne à la Roumanie et une partie qu'on va donner à la Yougo. D'où d'énormes minorités. Et d'énormes littéraires hongrois aujourd'hui qui sont malmenés en Slovaquie, malmenés en Roumanie, malmenés dans le nord de la Serbie. Et on n'a pas intérêt à prononcer, il y a un nom en Hongrie qu'il ne faut pas prononcer, le nom de Clémenceau. Vous prononcez le nom de Clémenceau, vous êtes tabassé dans la rue. Donc, c'est, pas par le hongrois moyen, mais par l'extrême droite hongroise, hein, qui fait quand même 25% des voix. Donc, l'extrême droite hongroise déteste Clémenceau. Donc, l'Allemagne est rendue coupable. On lui pique toutes ses colonies, qui sont données à la France et à l'Allemagne. On lui limite son armée à 100 000 hommes. On lui interdit d'avoir des sous-marins, d'avoir des tanks, d'avoir des avions. Elle n'a droit d'avoir une marine que de 16 000 hommes. Elle perd ses brevets qu'elle peut avoir. Elle, bien évidemment, elle est partagée en deux. Énormément de populations allemandes sont désormais dans des territoires non allemands. Et pour terminer, elle devra payer des réparations. C'est-à-dire ce que nous avons payé, bien évidemment. Mais ces réparations sont calculées, vu que c'est la France et un peu la Belgique qui ont le plus souffert, puisque la Russie étant hors-jeu, la Russie communiste ne participe pas au traité, elle n'est pas concernée, la Russie a beaucoup souffert, elle n'est pas concernée, puisqu'elle n'a pas assisté au traité. Donc c'est la France qui, et un peu la Belgique qui vont, bien évidemment, se mettre au premier rang pour récupérer les réparations. Alors, au départ, on demande 235 milliards de marques or. 235 milliards de marques or à la conférence de Spa, en Belgique, en 1920. Et puis, il y a un grand économiste que vous connaissez tous, qui s'appelle Keynes, le grand économiste anglais qui s'appelle Keynes, qui est dans la délégation britannique, et qui, lui, qui est un type intelligent, Keynes, intelligent au sens lucide. Les autres sont intelligents, mais ils sont aveuglés par leur haine. Lui, il est lucide et il dit « mais c'est aberrant de faire payer l'Allemagne comme ça, elle ne pourra jamais payer ». Bon, on refait une conférence à Paris en 21, puis on en fait une à Londres en 21, et chaque fois on diminue un peu le montant, puisque l'Allemagne n'a toujours rien payé. Et puis on fait une conférence à Cannes en 1922, et au moment où on arrive à un accord plus rabaissé, arrive la crise allemande de 1923, où le Mark s'effondre, c'est l'effondrement de l'économie allemande. Mais, vu que l'Allemagne ne paye pas, en 1923, arrive à la tête du gouvernement Raymond Poincaré. Lui qui fut président de la République sous la guerre, il redevient chef du gouvernement. Et Raymond Poincaré, qui est la droite intelligente mais musclée, envahit la Ruhr. En janvier 1923, il envahit la Ruhr. Avec les Belges. Les Anglais poussent des cris. Qu'est-ce que c'est que la France? Vous voyez, la France, c'est Poutine. Poincaré, c'est Poutine. Hein. Exactement, Poutine. La France, qu'est-ce que fait la France? Mais où va-t-elle? Les Américains, ils s'en foutent. Ils sont chez eux, ils sont rentrés. Ils n'ont même pas voté le traité de Versailles. Les Américains. Mais les Anglais, qui sont le seul grand pays européen, puisque l'Espagne est hors-jeu, le Portugal est hors-jeu, l'Italie est fasciste à ce moment-là, est devenue fasciste. Fasciste ne veut pas dire dangereux. Hein. À l'époque, fasciste est plutôt sympathique. Hein. Tout le monde a beaucoup d'amitié pour Mussolini. Hein. Il faut reconnaître qu'on apprécie beaucoup Mussolini jusqu'en 1935. Il hein. ne faut pas croire que Mussolini est quelqu'un détestable. Jusqu'en 1935, on le fréquente tous et on l'adore, Mussolini. Hein. Poincaré, vu qu'on ne peut pas être payé, on va se servir sur place. Politique musclée. Bien sûr, l'extrême droite française applaudit. Voilà un homme qui en a dans le pantalon, qui va en effet prendre aux Allemands ce qu'ils ne nous donnent pas. Donc on voit quelqu'un important. Le problème, c'est qu'en Allemagne se déclenche une grève générale. Grève générale contre les Français. Une haine du Français. Puisque les Français occupent l'Allemagne avec des troupes coloniales. Or, les Allemands n'ont jamais eu de troupes coloniales. Donc, ils armissent avec des Noirs. Et les Allemands, ils ont peur des Noirs. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils ont le goût d'avoir des colonies, ils n'en ont jamais eu. Un Noir, et bien évidemment, un Noir, à l'époque, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un anthropophage? Ben surtout quand on remarque, on les représente, ces noirs à moitié à poil, avec un os dans le nez, bien sûr, avec une lance. Et il y a un journal allemand qui s'appelle Simplicius Simplicissimus, qui est une sorte de canard enchaîné allemand, et qui montre un Français dégueulasse, énorme, un officier français. Qui mange bien sûr sur sa table, il y a plein de victuailles, et il est en train de manger un jambon avec l'os, et puis au bout de la table, il y a un ouvrier allemand avec sa casquette et des enfants tout malingres, qui tendent leurs petites mains pour avoir des miettes, et le Français tend en effet le jambon à ronger au noir qui est à ses côtés, bien sûr. Donc la haine est totale, la haine est totale. Ça, ils ne nous le pardonneront jamais. Ils ne nous pardonneront jamais. Cette invasion de la rue. Alors, on va être obligé, Poincaré, qui perd le pouvoir en 1924, puisque c'est Herriot qui arrive, la gauche qui arrive au pouvoir en 1924, et Herriot va être obligé, il fera, sous la pression internationale, évacuera la rue en 1925. Alors, on peut dire que là, on a atteint la détestation totale. Et je crois que je passe à mon deuxième temps. Mon deuxième temps, c'est les faux-semblants d'un rapprochement. 1924, 1925, 1932. Les faux-semblants d'un rapprochement. D'abord, il faut régler la question, 1924-25, la question des réparations. Alors, vu qu'on n'y arrive pas, nous, on fait venir un Américain qui s'appelle Doves, D-A-W-E-S, le plan Doves, D-A-W-E-S, qui, à la conférence de Londres, à l'été 24, arrive à fixer un échéancier sur 63 ans. L'Allemagne devra rembourser sur 63 ans, puisque l'Allemagne sort de la crise en 24, fin 24, et l'Allemagne s'engage à payer sur 63 ans. Bien évidemment, elle s'arrêtera de payer à partir de 1931. Et c'est Madame Merkel qui a remboursé les derniers sous à Nicolas Sarkozy. Voilà. En 2010. Bien sûr, en 2010, elle lui a apporté la dernière somme, dans un geste symbolique, la somme que l'Allemagne devait à la France. Ce plan Doves est intéressant parce que, à partir du moment que le plan Doves met en place un échéancier clair, pas trop, je dirais, matraquage, pas trop de matraquage pour les Allemands. Les Américains vont prêter de l'argent aux Allemands, les Allemands vont nous payer, et nous, on rembourse les Américains. Donc c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est comme ça que l'économie se remet en marche. Donc, et puis il y a la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, de octobre 1925 à Locarno. Voilà une date à connaître par cœur, pour les amitiés franco-allemandes, à Locarno, au sud de la Suisse, au bord des grands lacs, disons, frontière italo-suisse, se rencontrent la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie. Et la principale rencontre est entre Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, éternel ministre des Affaires étrangères français, très grand bonhomme. Je crois que c'est un peu un utopique. Un utopiste, je dirais, il porteur d'utopie, et ça, c'est pas détestable, les gens qui ont d'utopie. C'est un véritable porteur de paix. Briand est un véritable porteur de la paix. Et 1925, Locarno.
Vous avez dit Briand.
Comment ?
Vous avez dit Briand.
Oui, Aristide Briand.
Oui, mais vous avez dit Herriot, alors.
Ah non, mais Herriot, ça c'est il est président du Conseil. Il est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Herriot. Et d'autre côté, il s'appelle Stresemann. Stresemann, il est ministre des Affaires étrangères allemand. C'est un homme qui a eu un rôle essentiel. Il a été chancelier d'Allemagne, de la République de Weimar, en 1923, au moment de la grande crise de 1923. Stresemann, c'est un Allemand. Il est nationaliste. C'est pas un pacifiste. Mais il a compris que si l'Allemagne veut revenir dans le concert international, il faut que l'Allemagne joue la carte d'une certaine adhésion internationale. Donc, il se rencontre avec Briand et on arrive à ce qu'on appelle les accords de Locarno. Alors ces accords de Locarno sont très importants. Ça veut dire que l'Allemagne reconnaît la frontière belge, puisqu'il y a eu deux petits cantons allemands qui sont devenus belges, qui sont toujours belges aujourd'hui, qui s'appellent Eupen et Malmedy, qui sont toujours deux cantons germanophones en Belgique, qui datent de 1919. L'Allemagne reconnaît la frontière Alsace-Moselle, reconnaît la frontière Alsace-Moselle, mais ne reconnaît pas les frontières polonaises. Ne reconnaît pas les frontières polonaises. Mais s'engage, l'Allemagne s'engage dans un processus de paix et de, je dirais, de discussion, conférence internationale. S'il y a des tensions, l'Allemagne est prête à s'asseoir à une table pour discuter. Donc on peut dire que les accords de Locarno sont véritablement un moment de grand rapprochement franco-allemand et d'illusion de paix. L'année suivante, Briand et Stresemann reçoivent le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, Briand et Stresemann, et l'Allemagne rentre à l'ASDN, à la Société des Nations, en 1926. Donc, il semblerait qu'on a effacé le spectre de Versailles et le spectre de, je dirais, de l'humiliation. On verra. C'est pas... En 1928, lors d'une grande conférence internationale qu'on appelle le pacte Briand-Kellogg, Kellogg, K-E-2-L-O-G, qui est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, c'est un, écoutez bien, vous êtes assis, vous risquez rien, c'est un accord qui met la guerre hors la loi. La guerre est mise hors la loi lors du pacte Briand-Kellogg. L'URSS signe le pacte Briand-Kellogg. L'Allemagne signe, l'Italie signe le pacte Briand-Kellogg. Et l'Allemagne signe le pacte Briand-Kellogg. La République de Weimar. Cette période de rapprochement va se terminer, va connaître son acmé en mars 1931 par le match de foot France-Allemagne. Premier match de foot depuis 1914. L'Allemagne a été interdite de Jeux Olympiques en 1924 à Paris. Interdite de Jeux Olympiques en 1924. Et l'Allemagne est réintégrée aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Et la FIFA réintègre l'Allemagne qu'en 1928. Alors qu'on a réintégré l'Autriche et la Hongrie bien plus tôt. Mais l'Allemagne paye. Et ce match qui a lieu à Paris est un match intéressant, puisque j'ai un étudiant qui a fait un travail sur le match franco-allemand du 15 mars 1931. La France gagne 1-0, et l'ambiance est tout à fait correcte. Il y a 50 000 personnes qui assistent au match, et il n'y a pas d'insultes dans les gradins, alors qu'il y a des supporters allemands qui sont venus, il n'y a pas de bagarre, et on est dans une sorte, je dirais, d'euphorie franco-allemande. Le problème, c'est que entre les accords de Locarno et le match de foot de 31, il s'est passé la crise économique. La grande crise économique de 29 est là. Cette crise économique de 29, elle touche peu la France. Du moins, elle la touche faiblement. D'abord parce qu'on est un peu en retard sur le plan des structures entrepreneuriales. On a des PME, on a des ateliers, on est un peu encore obsolète. On est obsolète. Donc nous, on sera touchés en 1935. Et là, on aura 400 000 chômeurs. Alors qu'en 1928, on avait, écoutez bien, 4 000 chômeurs. Mais on en a 400 000, c'est quand même beaucoup. L'Allemagne, elle en a 6 millions de chômeurs. Parce que l'Allemagne, c'est une économie de grandes entreprises, de cartels, dans la chimie, dans la mécanique, dans la sidérurgie. Et il est évident que cette crise économique qui vient des États-Unis, vu que les Américains ont prêté de l'argent aux Allemands, les banques allemandes ayant prêté l'argent aux entreprises pour relancer l'économie, Quand les Américains demandent leur argent aux banques allemandes, les banques allemandes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles ne peuvent pas rembourser les Américains puisque l'argent est placé dans les entreprises. Donc, les banques allemandes font faillite. Les banques allemandes font faillite. Et donc, elles font faillite et de fil en aiguille, les entreprises allemandes rentrent en très grande difficulté. Et le chancelier, on peut dire Brüning, qui est le chancelier de la crise de 30-31, est un chancelier qui fait une mauvaise politique. Et ça me ramène à aujourd'hui, il fait une politique de rigueur. Il fait une politique de rigueur. Et une politique de rigueur, et aujourd'hui, tous les économistes du monde entier, les grands spécialistes de l'économie, on a longtemps attribué le nazisme à la crise de 29 et surtout à la crise inflationniste de 23. À la crise inflationniste de 23. Ça, c'est la thèse de Mme Merkel. Mais aujourd'hui, les économistes qui relisent l'histoire, comme on vient de relire les causes de la guerre de 14, s'aperçoivent que c'est surtout la politique de Brüning, et la politique de rigueur de Brüning, qui est une politique qui amène, bien sûr, à la catastrophe sociale. À la catastrophe sociale. Et c'est-à-dire à l'arrivée d'Hitler. À l'arrivée d'Hitler, qui lui propose, par son projet, quelque chose de différent, et qui va, en effet, être une réponse à la crise. Et qu'une réponse à la crise. Donc, cette partie est une partie intéressante, indiscutablement, parce qu'on peut s'appuyer sur ces années 24-32, sur cette idée de... Je dirais qu'il est possible de s'entendre avec les Allemands. En conclusion, Briand, quand il revient en France, après les accords de Locarno, l'extrême droite l'attaque. Charles Maurras attaque, en disant... Qu'est-ce que c'est que cette politique avec l'Allemagne? La France s'est couchée devant l'Allemagne. Voilà. Et Briand, qui est un vieux monsieur déjà, dit « J'ai fait la politique de ma natalité. » Voilà. Et il est vrai qu'en France, on est un pays de vieux. Il n'y a pas de gamins. D'abord, tous les garçons qui auraient pu faire des gamins, ils ont été tués. Il y a quand même 1 400 000 garçons qui auraient pu être des pères et qui ne seront jamais pères. Et il y a combien de filles qui resteront célibataires et qui pleureront devant le monument aux morts chaque 11 novembre parce qu'il y aura le nom de leur fiancé sur le monument aux morts. Et dans les campagnes, vous avez un fiancé et si vous le perdez, il n'y en aura pas un deuxième. Il n'y en a pas un deuxième dans les campagnes. Il n'y a pas mythique. Il n'y a pas mythique. C'est sûr que ce drame, la France, c'est un pays qui ne fait pas de môme. Qui fait pas de môme. On ne fait pas de môme dans l'entre-deux-guerres. Et donc, on est 40 millions et les Allemands sont 60 millions. Donc, Briand est raisonnable. Et il a une très belle caricature qui montre Briand vieux, avec son chapeau de paille un peu paysan, cultivant, bien sûr, des oliviers, donc la symbolique de l'olivier, de la paix. Et face à lui, il y a Stresemann, caricaturé bien sûr par l'extrême droite française, qui lui cultive des grenadiers. Cultive des grenadiers. Et le grenadier joue aussi sur l'arme. Un grenadier, c'est aussi un nom qui peut être lié à la guerre. Qui peut être lié à la guerre. Arrive la troisième rapport des rapports franco-allemands, la marque nazie. Sur la démocratie française. 1933-1945. Adolf Hitler, qui est un personnage hors norme dans ce XXe siècle, fait partie de ces fous du XXe siècle, il n'est pas le seul, mais il fait partie quand même, il arrive sur le podium. Hitler, qui a été caporal durant la guerre, qui s'est engagé, lui qui est autrichien, dans l'armée allemande, qui a été blessé, qui n'a jamais été un héros, et qui est loin d'être un héros. Hitler va être envoyé par les services secrets allemands, les services secrets de l'armée, on peut dire de la Reichswehr, va être envoyé dans un petit parti, le Parti National Ouvrier Allemand, comme taupe pour renseigner les services secrets de l'armée allemande sur ce mouvement d'anciens combattants qui pose quelques problèmes quand même aux autorités de la République de Weimar. Il a la carte numéro 6. Il n'a jamais eu la carte numéro 1, donc il n'est pas du tout fondateur du Parti National Socialiste. Mais parce que c'est un personnage qui est habité par une idée, par une obsession, ça c'est déjà important, pour arriver parfois il faut être porté par son obsession, il va entourer de héros de la guerre 14, Göring, Hermann Göring, qui est un très grand pilote, un des héros de l'aviation allemande. On voit toujours Göring gros en cochon, puisqu'on le représente toujours en cochon, Göring. Il a été jeune, Göring. Et ça, tous les hommes politiques ont été jeunes. Moi, je dis à mes étudiants, on les voit toujours vieux, mais ils ont été jeunes, les hommes politiques. Ils ont pu être beaux, les hommes politiques. Et c'est vrai qu'Hermann Göring, il est bel homme. Il porte bien l'uniforme. Et puis il est entouré de Rudolf Hess, qui est aussi un combattant de la guerre 14, mais qui est un personnage, je dirais, plus falot, qui n'a pas l'aura. Et en 1923, en pleine crise, en novembre 23, en pleine crise du Mark, il y a ce qu'on appelle le putsch de la brasserie. Le fameux putsch de la brasserie à Munich, qui est la ville la plus réactionnaire d'Allemagne, à Munich a lieu ce putsch qui est un putsch ridicule, qui essaye de soulever une caserne contre cette République de Weimar socialisante et déjà tenue par les Juifs, comme si l'obsession d'Hitler. Et Hitler va écrire en prison son Mein Kampf, qui est une sorte de délucubration folle, personne ne prend au sérieux qu'il peut y avoir dedans, et pourtant il va l'appliquer. Et ce Hitler, qui va être libéré en 1925, va cheminer à l'intérieur de ce parti, et vu que c'est un type qui est un génie du verbe, c'est un orateur exceptionnel, d'abord parce qu'il est shooté à l'héroïne, avant de, comme les rockers. Donc quand il monte sur scène, il y a les projecteurs, comme dans les grands concerts de rock, les projecteurs, la musique, le tambour. Pendant une heure et demie, on chauffe les grandes messes. Et quand il arrive, porté par cette force, cette passion, ce verbe, et bien évidemment par la drogue, qui le stimule et le pousse en avant, il est capable de sortir des choses que les Allemands veulent entendre. C'est-à-dire, le diktat, on nous a imposé le traité de Versailles, et c'est vrai. On nous a coupé l'Allemagne en deux, aberrant. Couper un pays en deux, mais c'est aberrant. Et puis, bien évidemment, le coup de couteau dans le dos, et vous savez qui ? Les socialistes et les juifs. Et les Allemands, ceux qui viennent, au début, ce sont les anciens combattants. Or, les anciens combattants allemands, ce qui est intéressant en France, quand on est ancien combattant, on défile en civil, le béret, la barrette de décoration, et on salue le drapeau. Ça, c'est les anciens combattants. En Allemagne, on défile en uniforme. Ça change tout. Donc les Allemands, anciens combattants. Et il est évident qu'avec la crise économique qui s'abat sur l'Allemagne à partir de fin 30, printemps 31, ça va grossir les rangs du Parti National Socialiste. Je rappelle que si je prends un exemple, bien sûr, Helmut, vous habitez ces grands ensembles ouvriers allemands qui sont dans les banlieues de Berlin ou dans les banlieues de Munich ou de Hambourg. Helmut, il n'a pas de boulot, il a deux mômes à nourrir, une femme qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as rien à apporter dans la casserole. Le pauvre Helmut, il y a 6 millions de chômeurs, qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre Helmut, si ce n'est… » Et il rencontre son copain, en effet, qui est là, qui habite la barre à côté, qui lui a l'air prospère. Et il lui dit « Mais comment tu vas ?»« Ben, ça fait pas mal. » « Mais qu'est-ce que tu fais pour être pas mal ?»« Ah ben, si tu veux, viens ce soir en bas de l'immeuble à 8 heures. Et qu'est-ce que je fais ?»« Ben, tu verras, viens à 8 heures. » Ah ben, Helmut, il rentre chez lui, il dit à sa femme, « J'ai rencontré Wolfgang, et il m'a dit, ce soir en bas de l'immeuble à 8 heures. » Et qu'est-ce qu'il va faire ?« Ben, il a l'air de bien se porter, hein, il a l'air, lui, de pas avoir de problème. Eh ben, vas-y !» Bon, il est en bas de l'immeuble, et arrive une grosse Mercedes noire, et avec d'autres gars comme lui, et il monte à l'arrière. Et Wolfgang présente Helmut, c'est mon copain Helmut. On travaillait à la même usine, elle a fermé. Ah bon, salut Helmut. Et bien sûr, la voiture arrive et on va faire une petite descente chez un juif. On va casser du juif. Alors Helmut, il n'a rien contre les juifs en particulier. Bon, les juifs, il ne les connaît pas particulièrement, les juifs. Bon, il sait bien ce qu'on dit sur les Juifs, mais il en veut pas aux Juifs, il a jamais eu de problème. Mais le problème, c'est que le soir, Wolfgang lui file un billet. « Allez, tiens, et puis demain, si tu veux, tu reviens. » Il rentre chez lui, il a ce billet, et sa femme lui dit « Alors, eh ben, regarde. Ah ben, c'est bien, on va pouvoir faire croûter les mômes. Ouais. » Et le lendemain, il y va, il est pris dans le grenage, et après, on lui fait conduire la bagnole, et puis lui-même, il va mettre la main à la porte, et puis c'est l'engrenage. C'est comme ça qu'on rentre dans les systèmes totalitaires. On aliène sa liberté pour des questions pratiques. Donc, il est évident que jamais le Parti national-socialiste n'aura la majorité. Les dernières élections libres, elles ont lieu, on peut dire, en 1933, et même après l'accession, parce qu'Hitler est appelé chancelier le 30 janvier 1933 à la tête de l'Allemagne, de la République de Weimar, par le vieux maréchal Hindenburg, et à l'époque, il n'a que 41% des voix. Et en mars 1933, il organise des élections qui sont déjà des élections plus ou moins contrôlées par le Parti national-socialiste, il n'aura pas la majorité. Donc on ne peut pas dire que l'Allemagne est un pays qui fut majoritairement nazi. Jamais les nazis n'ont eu la majorité. Et Berlin a toujours été une ville qui a voté contre les nazis. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Berlin n'est pas une ville qui a été nazifile. Hein. Jamais, même s'il y a eu les Jeux Olympiques de Berlin qui fait qu'on assimile Berlin et le nazisme à cause des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, il est évident que jamais il n'y a eu cette volonté. Alors à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir et qu'en 1934, Hindenburg est mort et qu'il devient président de la République de Weimar et qu'il transforme la République de Weimar en Troisième Reich, sans qu'il y ait de contestation internationale, les Américains, les Français, on a nos problèmes. On est en 1933-34, on est dans la crise du 6 février 34, où on est en train de se bouffer le nez entre l'extrême droite et la gauche française. C'est les fameuses émeutes du 6 février 34 à Paris. Et c'est là où il y a la dynamique de Front populaire qui se crée. Les Soviétiques sont en train de faire leur plan. C'est le deuxième plan de Staline. Qui connaît l'Union soviétique à l'époque? Personne. Les Anglais, ils sont en train de se sortir de la crise. Et les Anglais, comme d'habitude, ils sont sur leur île. L'Espagne est en république, puisque le roi vient d'abdiquer. Alphonse XIII vient d'abdiquer. Donc l'Espagne est en république, ce n'est pas encore la guerre civile. Le Portugal est la dictature de Salazar. L'Italie est fascistissime depuis 1925. Et puis les autres, ils comptent pour du beurre. Tout le monde s'en fout des autres. Qu'est-ce que c'est que les autres? Les Belges, les Hollandais, tout ça, les Danois, ça compte pas. Donc, il n'y a que la France et l'Angleterre qui restent en mesure. Bien évidemment, le 7 mars 1936, Hitler au nom du pacte franco-soviétique qui vient d'être signé. Il y a un pacte d'amitié franco-soviétique qui est signé par Laval. En 1935, Laval est président du Conseil. Il signe un pacte d'amitié. Ce n'est pas un accord militaire. C'est un pacte d'amitié franco-soviétique qui est signé en 1935. Hitler estime que le pacte remet en cause les accords de Locarno. C'est un peu comme Poutine dit que ça remet en cause les accords de 91. Et Hitler remilitarise la rive gauche du Rhin. Alors que c'était interdit par le traité de Versailles. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On va faire la guerre? Les Français ne veulent pas faire la guerre, ils sont pacifistes. Qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qu'il y a en France? Les femmes ne votent pas, et on ne fait pas de monde. Et qui est français à l'époque? Ben, les anciens combattants. Et ils ont vu tellement d'horreurs pendant la guerre qu'ils ne veulent pas faire de guerre. Ils ont donné, comme on dit. On a donné. Et ils ne veulent pas faire la guerre. Donc, Hitler a compris qu'il peut monter. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on compare beaucoup la période actuelle à la période des années 30. La période des années 30. Voilà. Et... Alors, arrive le grand moment terrible, c'est à partir de 36. En juillet 36 commence la guerre d'Espagne, qui est la répétition qu'on connaît très mal en France, on l'étudie très peu dans le cursus scolaire, cette guerre d'Espagne. C'est dommage parce que c'est un moment fondamental de l'histoire européenne. C'est une répétition, nous on le sait aujourd'hui, c'est une répétition de ce que va être la Seconde Guerre mondiale, une guerre idéologique. D'un côté, les républicains espagnols qui sont divisés, comme d'habitude, les républicains, les staliniens, les trotskistes, les républicains, les modérés, les libéraux, les social-démocrates, bref, tout ce qu'il y a à gauche et pas à gauche. Puis de l'autre côté, les franquistes qui, eux, sont soudés, l'armée, l'église, la grande bourgeoisie, et bien entendu une partie du peuple catholique espagnol, bien sûr, partie du peuple catholique espagnol, qui suit ce que dit le curé contre le diable rouge qu'est le communisme. On est dans un monde idéologique, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie. À l'époque, il y a une idéologie. On sait ce que c'est que l'idéologie. Et cette guerre d'Espagne, au moment où la guerre d'Espagne déclenche, le 17 juillet 1936, alors que Franco est un type plutôt falot, c'est pas un Hitler, c'est pas un Staline, hein. C'est même pas un fasciste. Il faudra comprendre que Franco est tout sauf un fasciste. C'est un autoritaire, un réactionnaire, mais pas un fasciste. Un admirateur de Charles Maurras, eh bien nous, on élit le Front Populaire. On est le Front Populaire. Et le Front Populaire est dirigé par Léon Blum, un juif, qui n'arrange pas les affaires, d'une partie de la France qui est fondamentalement antisémite. Disons-le clairement, la France est le berceau de l'antisémitisme. Alors que Blum est un juif tout à fait laïque, qui n'est pas un juif pratiquant, et il n'a jamais mis sa judaïcité en tête, hein, Blum. Mais malgré tout, il mérite, comme l'a dit en effet certains ténors de l'extrême droite, il mériterait d'être abattu dans le dos. Voilà. Donc, là, vous ne rendez pas compte, aujourd'hui, on est vraiment des enfants de cœur dans la violence politique. Hein. Aujourd'hui, on dit presque rien. Il faut voir les journaux de l'époque, hein. Les caricatures de l'époque. Hein. Moi, je travaillais sur Herriot à Lyon, sur les caricatures d'Herriot. Herriot qui est représenté en pute, vu qu'il est gros, alors on lui met des barésilles, maquillé en pute. Avec lui, il y a Blum avec son pif à la juive qu'on accentue, qui est habillé en pute, mais maigrichonne, qui est monté sur le dos d'Herriot, et sur les épaules de Blum, il y a Thorez, dont le visage a été transformé en Staline et qui décroche Marianne pour y mettre Marx. Pour y mettre Marx. Moi, ce que c'est que le Front populaire. La gauche profite, le Parti communiste profiterait de l'alliance pour remplacer Marianne par Marx.
Bien sûr,
Marianne par Marx. Franchement, les caricatures d'une violence, mais d'une violence qui aujourd'hui passerait devant la 17e chambre correctionnelle de Paris et en instance immédiate. Hein, immédiate. Donc, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, cette guerre d'Espagne où Blum essaye d'aider les républicains espagnols, il demande le soutien anglais, les Anglais disent non. Donc, Blum ne veut pas aller à la guerre tout seul, et puis les Français non plus ne veulent pas. Donc, Blum n'aidera pas les républicains espagnols, qui seront aidés massivement par Hitler, avec l'aviation allemande, ce qu'on appelle la division Condor, et puis par les troupes italiennes, il y aura 100 000 Italiens durant la guerre d'Espagne qui iront aider les franquistes. Et ça se terminera par le drame de mars 1939 où les Espagnols perdront, les Républicains se réfugieront en France et seront parqués, comme les Juifs seront parqués et comme les Harkis seront parqués, bien sûr, dans les mêmes camps. C'est-à-dire Argelès, beaucoup à Argelès, vers Perpignan. Et on livrera en permanence, et en 1941, on livrera plutôt, bien sûr, les Espagnols aux Allemands, plutôt que les Français. Donc, jusque-là, on peut comprendre Blum, qui sait sa fragilité, qui sait la détestation qu'il peut créer en France, dans une partie des Français, c'est-à-dire la moitié. Puis Blum, à partir de, on peut dire, du printemps 37, il est en recul et il s'arrête, il ne fait plus de réformes, le Front populaire est fini. Et il est remplacé en 38 par un radical qui s'appelle Édouard Daladier. Édouard Daladier, qui est prof d'histoire, donc quelqu'un d'intelligent, bien sûr, qui connaît au moins le passé, qui a été élève au lycée Ampère, et qui a eu comme professeur Herriot au début de sa carrière. Puisqu'il est du Vaucluse, on l'appelle le taureau du Vaucluse, Daladier. Et Daladier, c'est un type à poigne. C'est le radical à poigne, un type qui... Il met la France en préparation de guerre, et il s'aperçoit que la France a du retard. Donc on peut être à peu près sûr qu'en 1938, tout le monde sait que la guerre sera là. La guerre sera là. Quand ? Personne ne sait. C'est pas comme en 14. En 14, personne ne pense que la guerre va éclater. Personne. Donc elle éclate comme ça, brutalement, la guerre. En 15 jours, elle éclate, la guerre. Là, elle commence dès 33, la guerre. Elle commence dès 33. Et la France se prépare à partir de 35-36. Elle commence à se préparer, mais lentement. Elle accélère à partir de 38. Et à partir de 38, Hitler met la pression. Il met la pression sur ce territoire-là qu'on appelle les Sudètes. Il estime que les Sudètes sont peuplées par des Allemands, ce qui est vrai. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Bohème. Et elle est peuplée par des Allemands. Donc, il réclame ce territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça affole les esprits. Hein. Ça affole les esprits. Il réclame ce territoire. Alors, nous sommes alliés à la Tchécoslovaquie. Nous sommes alliés. La France est alliée. Ce qu'on appelle la petite alliance. Alors, on se rencontre à Munich, septembre 38, Munich, conférence de Munich, fin 38. Ça, c'est le pire moment de l'histoire européenne. Et le pire moment de l'histoire française. Et de l'histoire anglaise, bien sûr. Il y a Mussolini, Hitler, Chamberlain pour les Anglais, Daladier pour les Français. Hitler nous fait son numéro de charme, puisqu'il nous emmène à Berchtesgaden, dans sa résidence d'été. Il y a Eva Braun, sa maîtresse. Il est en culotte de cuir. Il fait la cuisine. C'est un charmeur, Hitler. C'est un charmeur. C'est un caractériel, Hitler. C'est un caractériel. Donc, il fait du charme. Les Anglais sont sensibles, parce que les Anglais pensent qu'il faut mieux Hitler que Staline. Il faut mieux Hitler que Staline. On est en 38, hein. Daladier croit qu'Hitler est un nouveau prophète. C'est un nouveau prophète. Mais il a compris la dangerosité d'Hitler. Et donc, on lâche la Bohème. On lâche la Bohème. Donc, Hitler sépara la Bohème, qu'il rajoutera au Reich. Et puis, la Slovaquie va être mise en place, puisque les Slovaques détestent les Tchèques. Je ne sais pas pourquoi on les a mis ensemble. Ils se détestent. Et la Slovaquie est donnée, au cardinal Tiso, cardinal catholique. Ça n'arrange pas les affaires de l'Église. Un cardinal catholique qui est un pro-nazi. Qui est un pro-nazi. Et en mars 39, bien évidemment, Hitler annexera ce qu'on appelle aujourd'hui la Tchéquie. Ce qu'on appelle la Tchéquie. Le problème, c'est qu'à Munich, c'est ça, à mon avis, et c'est là-dessus que j'insiste le plus devant vous, Munich, c'est le syndrome que nous portons depuis 1938, et dont l'Europe, et particulièrement la France et l'Angleterre, n'arrivent pas à se défaire. C'est la honte que nous portons, la tâche que nous portons. Churchill dira, vous vouliez la paix et, en effet, je dirais l'apaisement, vous aurez la guerre et la honte. Voilà. Vous aurez la guerre et la honte. On s'est déculotté devant le nazisme et devant les totalitaires. Et depuis, on s'en est jamais remis. On s'en est jamais remis. C'est pour ça qu'on est intervenu en Libye. Exactement. Nicolas Sarkozy, qui n'est pas un grand spécialiste de l'histoire, ses conseillers, Henri Guénaud, a dû lui faire un cours sur Munich. Il lui a dit, écoutez, Munich, on a été humilié à Munich. Il faut pas que, quand des populations civiles sont menacées, il ne faut pas refaire Munich. Il faut intervenir. Et François Hollande, pareil, il est imprégné de Munich. Imprégné de Munich. Et là, on pose problème, parce que la Crimée, c'est pas le Mali. C'est pas le Mali, la Crimée. Il y a le père Poutine qui sait jouer aux échecs, lui. Il sait jouer aux échecs. Il sait avancer ses pions. Jusqu'où, personne ne sait. Et l'Europe, comme d'habitude, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire. Et à l'époque, il n'y a pas d'Europe. Ce qui fait l'Europe, c'est la France et l'Angleterre. Et quand Daladier revient en France, il atterrit au Bourget, fin septembre, les Français sont sur le tarmac et ils applaudissent. Vive Daladier! Vive la paix! Bravo Daladier! Sa gueule! Et Daladier se tourne vers son assistant et lui dit pauvre con. Voilà ce qu'il dit. Pauvre con. En parlant des Français. En parlant des Français. Pauvre con. Sous-entendu, on l'aura la guerre. Il le sait, Daladier. Mais il faut qu'il gagne du temps. Il faut qu'il gagne du temps. Il n'est pas prêt. La France n'est pas prête. Elle n'est pas prête. D'abord, les Français ne veulent pas la guerre. Ils sont pacifistes. L'armée n'est pas prête. On n'a que des vieux qui dirigent l'armée. Végan, Gamelin, des gens qui ont fait la guerre de 14. Des gens ces gens qui ne sont pas adaptés. En 14, on a fait une politique défensive. Et on a perdu le 25 août 1914, messieurs, mesdames, 25 août 14, on a perdu 26 000 Français en une journée. 26 000 Français sont tombés le 25 août 14. 25 000 Français! Ça fait 1200 à l'heure. Vous divisez par minute. Vous vous rendez compte? Ça fait 20 par minute. Vous vous rendez compte ce que c'est? Donc, en 1939, on est tout à la défensive. On est tout à la défensive. Plus du tout à l'offensive. On n'est qu'à la défensive. Derrière la ligne Maginot. Derrière la ligne Maginot, bien sûr, qu'on a construite. Et qui est imprenable. Il faut reconnaître qu'elle est imprenable. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait du côté belge. Puisque les Belges, c'est nos amis. On ne va pas faire une ligne devant les Belges. Ils sont nos amis. Bien évidemment, la guerre va être déclaré quand l'Allemagne et Hitler ne pensaient pas qu'on déclarait la guerre pour la Pologne. Et quand il attaque la Pologne, le 1er septembre 1939, après avoir passé un accord avec l'URSS, ce qui est le truc le plus fou de 1939, 23 août 1939, le pacte germano-soviétique. Le diable qui s'entend avec Mephisto. Donc c'est pas possible ça. Le communisme avec le nazisme. Mais c'est dingue ce truc. Les communistes français, ils n'en reviennent pas. Ils sont effondrés. Qu'est-ce que c'est ce machin? On nous a toujours dit que le nazisme c'est ce qu'il y a de pire, et maintenant ils s'entendent. Parce que Staline n'est pas prêt. Staline n'est pas prêt. Il a purgé l'armée soviétique. L'armée n'est pas prête soviétique. Donc Staline gagne du temps. Et Hitler se libère à l'Est. Il se libère à l'Est. Donc, mais Hitler ne pensait pas qu'on réagirait le 1er septembre. Humilié, à un moment ou l'autre, quand on est humilié, on réagit et on déclare la guerre le 3 septembre. Donc, commence la Seconde Guerre mondiale, qui démarre par la drôle de guerre, bon, deux, trois accrochages, et puis commence la campagne de France, bien évidemment. Campagne de France, les Allemands pensaient qu'on... Ils étaient très admirateurs de la France, les Allemands. On avait tenu à Verdun. Jamais ils auraient pensé qu'on tenait à Verdun. Et que la France n'avait pas craqué. Donc les Allemands sont admirateurs de la France. Et ils sont très étonnés de l'effondrement de l'armée française en 5 semaines. Alors aujourd'hui, on revient beaucoup sur cette guerre, sur 40. Parce qu'on a beaucoup caché 40. On a caché 40, qui est quand même la pire défaite de notre histoire. La pire. Aujourd'hui, il y a eu 70 000 Français tués en 40, en 5 semaines. 70 000 Français. Il y a eu 45 000 Allemands. Donc, ce n'est pas une guerre de fillettes, quand même. Donc, ça, c'est une chose. Première chose. Deuxièmement, cette guerre de 40 a été très mal représentée au cinéma. Et elle nous a représenté la guerre de 40 par des films qui nous ont ridiculisés, qui ont ridiculisé, je dirais, les efforts. Alors, je ne parle pas des généraux, ils ont tous été mauvais. Mais je dirais des soldats français qui ont combattu, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, avec des militaires dépassés, de l'âge de Pétain, voire un peu plus jeune. Et Pétain, quand il a signé l'armistice, il n'a pas signé une capitulation. Car s'il avait signé la capitulation, c'était totalement différent. La capitulation, c'est la responsabilité de l'armée. Il signe l'armistice, c'est la responsabilité du politique. Ça change tout. C'est-à-dire, il rend le Front populaire responsable. Tandis que s'il avait signé la capitulation, il rendait l'armée responsable. Et Pétain ne rend pas l'armée responsable. Ça change tout, ça. Or, aujourd'hui, les films qui ont été faits sur la Seconde Guerre mondiale sont des films qui nous présentent, un, Jeux interdits, que tout le monde connaît en France, Jeux interdits, avec cette gamine qui est abandonnée parce que ses parents sont tués et elle est récupérée par des paysans, avec le fameux jeu de guitare que tout le monde fait à la guitare. Jeux interdits. Deuxième film, où est passée la 7e compagnie? Des conneries de ce genre qui font rire les Français le dimanche soir sur TF1, mais où on voit une bande de Français plutôt des marrants, Jean Lefebvre, Pierre Mondy, des gens qui montrent que les Allemands, c'est des couillons, mais nous, les Français, on les roule parce qu'on est des malins, nous, on est des malins, mais on est des malins pour voler un camembert ou un saucisson, voilà ce qu'on a fait. Et troisième film qui a eu beaucoup de succès, et qui s'appelle « Weekend à Zoutkout », avec Bebel, l'acteur le plus populaire français, Belmondo, où ça se passe à Dunkerque, au moment où on est pris en tenaille par les Allemands à Dunkerque, et là où on voit Bebel avec son fusil mitrailleur et qui dit à ses potes « Ah les gars, on va pas se faire tuer pour la France, hein, parce que où ils sont les officiers, ils ont tous disparu, donc on va rentrer chez nous. » Voilà. Donc ces films-là ont montré en gros qu'il n'y avait pas d'armée française, que c'était tout, qu'on était des rigolos, c'est ce qui est resté, et c'est une image qui est passée, parce que j'ai une étudiante qui a travaillé sur la 7e compagnie, combien de fois elle est passée sur TF1, mais c'est affolant. Et on a tous rigolé, c'est vrai, qu'à la 7e compagnie. Et c'est pas la réalité, c'est pas la guerre, ça. C'est pas ça qui s'est passé. Alors, on est battu, on est occupé, vous le savez. Il y a un armistice, le 23 juin. La France, et il y a même une carte ici, qui n'est pas complète, mais qui montre quand même l'essentiel. On voit bien que il y a une partie qui est rattachée au commandement allemand de Bruxelles, une zone interdite, une zone réservée, une zone annexée au Reich, une zone d'occupation allemande, et puis la zone dit libre. Et puis en 40, les Italiens nous déclarent la guerre au moment de la défaite, et ils occupent tout le sud-est. Et on s'aperçoit que la ville de Vichy, Châlon, est sur la ligne de démarcation. Tout le monde connaît Châlon sur la ligne de démarcation. Et bien évidemment. Et puis Lyon, la très grande ville, mais que Pétain n'aime pas, et qui se réfugie à Vichy. Pourquoi ? Ben Vichy, parce qu'il y a des hôtels où on peut mettre l'administration de la France de Vichy. Dans cette France qui est dominée par les Allemands, qui ne nous en veulent pas beaucoup, qui admirent beaucoup la France, le représentant du Reich à Paris, qui s'appelle Otto Abetz, est un grand admirateur de la culture française, très grand admirateur, et de l'art de vivre français, je dirais. Parce que le film qui sort, Monument Men, actuellement, c'est un film complètement bourré d'erreurs historiques, qui est même assez affligeant. C'est un film, vraiment un film américain, un film hollywoodien qui ne connaît rien, vraiment, à l'histoire. Et c'est un film, il faut voir ça plutôt comme une sorte de loisir, mais pas du tout un film qui a pourtant des ambitions historiques. Hein. Bon, dans cette France malmenée par l'Allemagne, il y aura ce qu'on appelle les collabos. Alors aujourd'hui, on différencie les collabos des collaborationnistes. Les collaborationnistes sont des gens idéologiquement pro-allemands, alors que les collaborateurs, ça peut être des gens, j'allais dire comme nous, des gens qui, parfois, des chefs d'entreprise qui sont obligés de travailler avec l'Allemagne, sinon on leur confisque leur usine, par exemple. Donc c'est pas évident. On est tous... Il y a un Suisse qui a travaillé là-dessus, sur la France, et qui a montré qu'on était tous Mr. Jekyll and Dr. Hyde. On était tous un peu Mr. Jekyll and Dr. Hyde. Vis-à-vis... Je parle pas des collaborationnistes, c'est-à-dire les durs. On peut estimer aujourd'hui en France qu'il y a eu à peu près de collaborateurs sionistes, 200 000. Et qu'il y a eu aujourd'hui comme résistants, ce qui en reste 840, il y en a eu 200 000. Et on était 40 millions. Vous voyez, donc il reste quand même 39 600 000 Français qui ont été ni résistants ni collaborateurs, qui ont été tout simplement Français. Comme le président Pompidou, qui était professeur à Henri IV, qui ne sait pas du tout, qui n'a jamais été résistant, Pompidou. Jamais résistant, alors qu'il avait 28 ans. Donc, ni Georges Marchais, futur secrétaire du Parti communiste, qui est allé travailler en Allemagne avec le STO. Donc, c'est quand même extraordinaire pour un futur secrétaire du Parti communiste français. Donc, cette Allemagne qui nous pose problème, qui nous occupe, qui nous fusille, qui nous pompe, puisqu'on paye 400 millions de francs or par jour, qui nous achète à des prix, avec un marque fort, des produits en France, bien sûr, donc à prix très bas pour elle, qui nous pique de la main-d'œuvre, STO à partir de 43. Bref, cette Allemagne qui ne nous demande pas au début de livrer nos juifs, mais à qui on va essayer de... Il est clair qu'aujourd'hui, on comprend le recul qu'à partir de janvier 43, c'est-à-dire à partir de la défaite de Stalingrad, on peut penser que l'Allemagne allait perdre la guerre. Quand ? Personne ne pouvait le savoir. Donc c'est assez facile d'évoquer, mais en 42, l'Allemagne alliée du Japon à l'Est, qui marquait des points, de l'Italie qui n'était pas encore ridiculisée en tripolitaine, on peut penser que l'Allemagne allait s'installer durablement en Europe. Et Laval, qui n'est pas un fasciste, Laval qui est un maquignon auvergnat, qui vient du socialisme, Laval essaye de préparer la France pour l'Europe allemande. Je rappelle que toute la grande bourgeoisie parisienne de Louis le Grand, d'Henri IV, a fait apprendre l'allemand à la rentrée 1940 à ses enfants, pour pouvoir travailler avec les Boches. Et puis si t'es une fille, tu parles allemand, ma fille, au moins si t'épouses un Boche, tu pourras t'entendre avec lui. Alors qu'on n'apprenait plus l'allemand depuis 1918, plus personne n'apprenait l'allemand en France depuis 1918. Donc c'est quand même, c'est bien de la collaboration ça, psychologique. Place des Terreaux à Lyon, Pétain vient, octobre 1940, 25 000 personnes, place des Terreaux. De Gaulle vient, septembre 1944, il y a les mêmes, à part quelques-uns qui ont disparu. Bon, c'est les mêmes. Donc, si on faisait une photo grossie, on pourrait en effet trouver les mêmes visages. Donc là-dessus, soyons pas trop durs. Tant qu'on a. Ceux qui ont vécu cette période le savent, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Vous avez les plus âgés de cette salle ont été gamins à l'époque, ce n'était pas pareil. Quand on est adulte, ça doit être beaucoup plus dur. Et ce n'est pas moi qui jette la première pierre, comme dirait Brassens. Il est évident que l'humiliation française de juin 40, elle est effacée par l'appel du général de Gaulle. Et c'est vrai que ce personnage hors norme qui s'appelle le général de Gaulle, colonel de Gaulle jusqu'au moment où il rentre au gouvernement, dans le gouvernement Paul Reynaud, en mai 40, il est colonel, qui l'a écouté, personne, qui a écouté sa théorie sur les chars, personne, il parle dans le désert, il prêche dans le désert, bon, il s'en va à Londres en mission, et ben la défaite le trouve à Londres, il reste à Londres, et bien évidemment, il va faire cet appel complètement hors norme, qu'il a écouté. Aujourd'hui, on estime que, vu à l'époque, il n'y a pas de transistor, qu'il fallait avoir un poste à Galen, le machin, avec le truc antiparasite, on peut estimer qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3500 personnes qui l'ont entendu en France. À peu près 3500 personnes. Donc, très peu. Malgré tout, il reste la symbolique. Hein. La symbolique, sur certains endroits. L'autre jour, j'étais au ministère des Anciens Combattants pour la préparation de la commémoration de la Grande Guerre. J'étais à côté de M. Gallet, certains s'en souviennent, M. Gallet, qui a 93 ans, et qui est un beau vieillard, et qui se lève à côté de moi, et qui me dit « Jeune homme », ça m'a fait plaisir, « Jeune homme », il m'a dit « Vous savez que je suis parti pour Londres le 19 juin ». Non, je lui dis « Monsieur, je l'ignorais. Félicitations. » Félicitations. Donc, ce qui montre bien, certains l'ont entendu. Certains l'ont entendu, puisque Gallet est parti. Alors, arrive la dernière phase, que j'appellerai « Quand la France imprime sa marque sur la RFA 45-63 ». Alors, à la fin de la guerre, la France, les Américains n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas, c'est pas la France qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas De Gaulle. De Gaulle est un type, pour eux, dangereux. Un type pouvoir personnel, pouvoir un peu le Bonaparte à la française. Le Bonaparte à la française. Et les Américains, c'est pas dans leur style. C'est pas dans leur style. Donc les Américains, à Yalta, tiens, en Crimée, tiens donc, ils n'invitent pas De Gaulle. Donc il n'y aura pas De Gaulle, il y aura Churchill, Staline qui bouge jamais, presque, parce qu'il a peur d'être assassiné, et qui se met toujours dans un coin de pièce loin d'une fenêtre. Moi, quand je suis allé à Yalta, j'ai visité le bureau où il y a eu les accords de Yalta. C'est intéressant. Il arrivait par un couloir secret et il se mettait dans un coin où on pouvait le voir d'aucune fenêtre. Donc, aucun tireur embusqué ne pouvait, en effet, lui tirer dessus. Et Churchill, en pleine forme, bien sûr, et Roosevelt à moitié mort, puisqu'il va mourir de son cancer peu de temps après, qu'il a fallu qu'il traverse, dans les avions de l'époque, tout l'Atlantique pour se retrouver à Yalta. Il arrive très fatigué. Donc, les choses. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas divisé l'Europe à Yalta. Ça, c'est les gaullistes qui le disent. Parce que les gaullistes n'y étaient pas, donc ils ont toujours été anti-américains, les gaullistes. Donc, ils racontent que Yalta, on a divisé le monde. Non, le monde avait été divisé bien avant la conférence de Téhéran, en 1943, entre Churchill et Staline. On avait dit chacun son monde. Et Staline a respecté l'enjeu. Parce que Churchill avait dit la Grèce, c'est à moi. La Grèce, c'est aux Anglais. Et en effet, Staline n'aidera pas le Parti communiste grec lors de l'insurrection de 1946-47. À Potsdam en juillet 45, il n'y aura pas de Français à Potsdam encore, alors que c'est la conférence dans la banlieue de Berlin. Et les Français vont avoir une part d'occupation dans l'Allemagne, on peut dire, dans l'Allemagne qui est à l'époque, voilà la partie, on peut dire, occupée par, par l'armée rouge, ça c'est la Pologne qui récupère, puisque l'URSS récupère les terrains qu'elle a perdus en 1918, et la Pologne glisse vers l'ouest, et l'Allemagne glisse en effet vers l'ouest. Alors là, on a la partie occupée par les Alliés, et la France occupe cette région qu'on nous donne, voilà la partie que la France occupe, que les Anglais nous donnent sur leur zone. Ce sont les Anglais, donc il ne faut pas trop triquiter les Anglais, qui ont été plutôt corrects avec nous. Cette Allemagne, on s'en méfie. On s'en méfie jusqu'au moment où la guerre froide commence. La guerre froide commence en 1947, et en 1947, il y a Berlin. Tout le monde voit Berlin, avec la zone, les zones d'occupation occidentale à l'ouest et la zone soviétique à l'est. Et les Français ont une zone que les Anglais nous ont donnée, sur leur part. Et bien évidemment, regardez la carte, là, on est le monde soviétique, et sur la joue soviétique, Berlin, c'est un bouton. C'est un bouton capitaliste sur la joue communiste. Comme dirait Georges Marchais, sur la joue communiste, comme il disait. Donc, en 48, au printemps 48, provoqué par les Américains, qui viennent de créer le Deutschmark pour l'Ouest, parce que dans la tête des Soviétiques, aujourd'hui on a les archives, les Soviétiques ne veulent pas de division de l'Allemagne. Ils veulent qu'on reste dans une Allemagne occupée. Mais dans leur tête, il n'y a pas de division. Mais ce Berlin les agace. Donc les ils profitent de la provocation américaine de créer le Deutschmark pour la zone Ouest pour faire le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin commence au printemps 48. Ils bloquent les couloirs aériens accédant, chemin de fer accédant à Berlin. Donc impossible d'arriver en chemin de fer à Berlin. Et les Américains vont créer un couloir aérien avec les DC-3 de l'époque. C'est un succès. Les avions atterrissent à l'aéroport que vous connaissez tous, ceux qui connaissent Berlin, l'aéroport de Tempelhof, qui est en plein cœur de Berlin aujourd'hui, qui est un aéroport construit par les nazis. Et les Américains, dans des conditions, un hiver 48-49, qui est un hiver terrible, très froid, avec beaucoup de pilotes qui vont se scratcher, ils vont alimenter les Berlinois de l'Ouest en charbon, en alimentation, en jouets pour les enfants à Noël et en carottes pour l'hippopotame du zoo. Car l'hippopotame du zoo de Berlin ne mourra pas, il lui faut quand même 40 kilos de carottes par jour. Il faut quand même les trouver, les 40 kilos de carottes. Les Allemands, c'est pour ça que les Berlinois adorent beaucoup leur zoo. Leur zoo, parce que c'est une sorte de symbole de cette résistance des Berlinois de l'Ouest. Et puis, au printemps 49, Staline baisse les bras, il a perdu le bras de fer avec les Américains. Et on rentre, on crée la RFA. Elle est créée au printemps 49, République fédérale allemande. Et de l'autre côté, à l'automne 49, on crée la RDA, la République démocratique allemande. Deux républiques qui ne sont... La RDA ne sera reconnue par personne. Nous, la France, on entretiendra un chargé de mission à Berlin-Est, qui est la capitale, un chargé de mission, mais il n'y aura pas du tout de représentation diplomatique pour les pays occidentaux. Tous les pays communistes auront bien sûr une représentation diplomatique. Et c'est à ce moment-là que, dans cette Allemagne coupée en deux cette fois, claire, communiste, non communiste, qui va apparaître des hommes de bonne volonté du côté franco-allemand. Et ça m'amènera dans cette partie où la France marque de son empreinte l'Allemagne. De notre côté, à partir de 1949, des gens comme Jean Monnet, Robert Schuman, un grand chrétien, un catholique, un Lorrain. Du côté allemand, Konrad Adenauer, un chrétien démocrate qui fut maire pendant la période... Il n'a jamais émigré durant la période, il n'a jamais été résistant, Konrad Adenauer, mais il a été maire de Beaune, et puis après il a été mis à pied par les nazis, mais il n'a jamais, si vous voulez, exprimé un antinazisme actif. Mais il n'est pas non plus un nazi. Et puis du côté italien, un gars qui s'appelle Alcide de Gasperi, G-A-S-P-E-R-I, un site de Gasperi, et puis pour terminer, un Belge, qui lui, tous ces gens-là, Schumann, Gasperi, Konrad Adenauer, sont des chrétiens démocrates. Donc, et curieusement, ils parlent en allemand. Parce que Schumann est né en Lorraine allemande, donc il a fait ses études à Strasbourg, université allemande. Alcide de Gasperi est un homme du Frioul, donc du nord de l'Italie, c'est-à-dire le Tyrol sud, que les Italiens ont acquis en 1919, donc il parle allemand. Et bien sûr, quand on en parle. Donc le Rome, c'est fait en allemand. C'est fait en allemand, on n'a pas eu besoin de traducteur. Et le quatrième, c'est un Belge qui s'appelle Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak avec deux A. S-P-2-A-K. Et c'est ces hommes qui vont donner naissance à une nouvelle Europe, à une Europe communautaire qu'on appelle la CEE, qui va, je vais terminer là-dessus, qui va voir d'abord, première étape, le 9 mai 50, date qui devrait nous être chère à tous et toutes ici, présents, et qui malheureusement n'est pas un jour chômé, qui est une catastrophe. Si on veut faire naître un sentiment européen, il faudrait transformer, moi je me milite depuis longtemps pour qu'on glisse du 8 mai au 9 mai, du 8 mai au 9 mai. Le 8 mai, on est quand même, bientôt 70 ans après, on peut penser que la page a été tournée, sans pour ça qu'on oublie, mais la page a été tournée. Bref, c'est toujours pas le cas. Et dans aucun pays européen, le 9 mai n'est un jour chômé, à part quand il tombe le dimanche, mais ça, c'est pas une explication. Et bien évidemment, ce traité franco-allemand au départ est ouvert à tous les pays européens qui veulent y souscrire, et vont y souscrire l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, d'où l'Europe des Six qui naît au traité de Paris en 51. Et puis, on va avancer, mais la France se méfie. En 1952, on signe un traité qui s'appelle le traité de la CED, Communauté européenne de défense. Et ce traité, il est signé, mais il faut qu'il soit ratifié. Or, je rappelle, sur la 4e République, il est interdit de faire un référendum. Pas le droit de faire un référendum sur la 4e. Donc, il ne peut être ratifié que par l'Assemblée. Et il arrive à signature en août 1954, pour être ratifié par l'Assemblée. Or, août 1954... Qui est président du Conseil ? Pierre Mendès-France. Qui est président de la Chambre ? Herriot. 82 ans. Herriot, né en 1872, qui a connu la guerre de 14, qu'il n'a pas faite, mais qu'il a connu. Qui a été déporté par les Allemands en 1944. Il a été mis en résidence surveillée par Pétain, puis déporté par les Allemands en 1944. Il y a un sentiment anti-allemand, qu'on veuille ou non, dans ce vieux monsieur intelligent, connaisseur de Beethoven, meilleur connaisseur de Beethoven, parlant l'allemand, donc major de la rue d'Ulm, donc un des plus grands esprits français. Je rappelle qu'en 1921, Herriot et Léon Daudet de l'extrême droite ont discuté pendant une heure et demie à la Chambre en latin. Imaginez aujourd'hui, en latin, pendant une heure et demie, un débat en latin à la Chambre en 1921, entre Herriot et Léon Daudet. Ça devait être assez haut niveau. Hein, assez haut niveau. Bon, Herriot, président de la Chambre, ne fait aucun effort. Mendès-France, il est secoué par Dien Bien Phu. Il est secoué par Dien Bien Phu et par la perte de l'Indochine. On vient de perdre l'Indochine en juillet 1954. Et il a entendu dans ses oreilles, c'est bien la faute d'un juif. C'est bien la faute d'un juif. Mendès étant juif. Les gaullistes, de Gaulle, et s'est retiré à Colombey, mais il y a des gaullistes à l'Assemblée, les gaullistes ne veulent pas de l'Allemagne. Ne veulent pas de communauté européenne. Et leurs élus, dont le plus connu s'appelle Jacques Chaban-Delmas, vote contre. Les communistes ne veulent pas d'Europe de la défense pour pas qu'elle soit tournée contre l'URSS. Donc les communistes, très nombreux, je rappelle que les communistes à l'époque, aujourd'hui, quand on dit ça aux jeunes, ils pèsent 28%. 28% les communistes. Hein. Aujourd'hui, ils tiennent dans une cabine téléphonique. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, 28%, les communistes disent pas. Donc, pas d'Europe de la défense. 54%, pas d'Europe de la défense. Donc, pas d'Allemagne. On ne veut pas d'Allemagne dans l'Europe de la défense. Donc, il n'y aura pas d'Europe de la défense. Il n'y a toujours pas d'Europe de la défense. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à Poutine ? Poutine, t'es pas gentil. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà. On va geler tes avoirs. Voilà. Oui. Mais vu qu'on a tous besoin de son gaz, surtout qu'il va faire froid la semaine prochaine, donc ça va être encore utile. Et puis pour terminer, heureusement que ces mêmes hommes vont recommencer, après cet échec de 54, à mettre en place une dynamique. Ça sera la dynamique de l'Union de la CE, qui sera signée le 25 mars 1957 à Rome, le traité de Rome 1957, très important. Avec la bande des six, comme je dis. Et puis, je n'irai pas plus loin, parce que je vous laisserai la parole, ceux qui veulent poser quelques questions, sur le fameux traité d'Élysée du mois de janvier 1963, qui est le traité d'Élysée, qui est un grand traité, oui, sur le moment. Le contenu, on y reviendra plutôt la fois prochaine, parce qu'on démarrera là-dessus pour terminer aux relations. Ça fera 63-2014, ça fera une cinquantaine d'années de relations. Comme il vient de le faire, qui sera des années un peu différentes d'amitié franco-allemande, entre guillemets, parce que 63, c'est le grand amitié, le traité de l'Élysée, d'amitié franco-allemande, qui crée l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et puis qui crée une sorte de couple, le couple franco-allemand, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, fonctionne avec des hauts et des bas, et plutôt, je dirais, a plutôt pas mal fonctionné depuis 1963, disons, avec des, bien sûr, deux pays totalement différents. Il faut dire que l'Allemagne et la France, c'est quand même deux pays totalement différents. Nous, on est jacobins, c'est-à-dire on est centralisateurs, eux, ils sont décentralisateurs. Nous, on est laïcs, eux, ils respectent. La religion est quand même un phénomène important. Quatrièmement, eux, ils regardent vers l'Est et nous, on regarde vers l'Ouest. Donc, ça change tout. Et pour terminer, eux, c'est un pays de consensus, et nous, c'est un pays de révolution. Nous, on est un pays de révolution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour de grève, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être plus de lumière. C'est évident que nous, la France est un pays de grève, de lutte sociale, de révolution, alors que l'Allemagne, ça a toujours été un pays, au contraire, de consensus. Ah, ben voilà, la lumière. Bon, ben, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'une ou deux questions... Voilà.
Vous êtes
resté à... j'en suis assez fier.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on vous invite. Donc, merci de nous être fidèles. Donc, eh bien, la salle va poser des questions. Non ? Pas de questions ? Si. Oui, alors.
Vous ne pensez pas que l'Europe fédérale a échoué dès le rejet de la CED ? Je parle de l'Europe fédérale.
Oui, vous avez raison de dire que la CED aurait tout changé si on avait pu la faire. Parce qu'elle aurait mis en marche une sorte de dynamique de rapprochement pour, au niveau des états-majors, au niveau des armées, qui aurait pu... Bon, le choix a été fait. Après l'échec de la CED, on a fait le choix de l'Europe économique. Voilà, on a fait le choix de l'Europe économique, qui a été quand même la grande réussite de l'Europe jusqu'au moment où on a essayé de passer à l'Europe monétaire. Et l'Europe monétaire a abouti parce qu'elle a été mal pensée, trop vite faite, sans base solide, qui a abouti à la crise que nous connaissons et dans laquelle nous ne sommes pas encore totalement, laquelle nous ne sommes pas sortis. Donc, globalement aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Il reste une Europe économique, il n'y a pas d'Europe politique, il y a une Europe monétaire mais qui a besoin d'être repensée, et puis il n'y a pas d'Europe militaire, c'est vrai.
Et c'était une pièce essentielle du fédéralisme
de... Ah oui, je pense, vous avez raison de souligner. Ça aurait pu être une pièce, ça aurait pu, puisqu'on peut toujours supputer maintenant, puisque ça n'a pas eu lieu, ça aurait pu être une pièce importante de l'Europe fédérale ou d'Europe fédéraliste, comme vous dites. Oui, oui, j'en suis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à l'époque, on n'était pas mûr. On n'était pas mûr pour faire ça. Trop tôt après la guerre, 54, 9 ans après la guerre, c'était trop tôt. Hein. N'oubliez pas qu'on a amnistié les malgré eux en 53. Les malgré eux, ceux qui étaient dans la division d'Asreich, d'Oradour-sur-Glane, ont été quand même amnistiés en 53. Donc on est encore dans la guerre. En 53, il y a des prisonniers allemands qui ont construit le barrage de Génissia sur le Haut-Rhône, qu'on libère à ce moment-là. On libère, les prisonniers allemands n'ont été libérés que certains qu'en 53. Je ne parle pas des prisonniers en URSS, prisonniers allemands en URSS qui ont été libérés dans les années 70, et certains ne sont jamais rentrés. Hein, sont jamais rentrés. Donc, la guerre est là. Et puis, à l'époque, on est dans un mythe résistentialiste. Dans un mythe résistentialiste. Moi, j'ai un étudiant de Chalon, il y a quelques années, qui a voulu travailler sur la ligne de démarcation et sur les collabos de Chalon. Trouver les résistants de Chalon, c'est facile. Trouver les collabos de Chalon, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Hein. Le pauvre garçon, qui est un garçon sympa maintenant, qui a immigré au sud de la France, ses parents, je ne dirais pas son nom, ses parents, il m'a dit, monsieur, j'arrive à trouver des résistants, mais les collaborateurs, ou les passeurs de frontières, ceux qui passaient, ceux qui faisaient passer les juifs entre le nord et le sud, à Chalon, ou l'autre, j'ai eu du mal. Eh ben, il n'a pas trouvé, il a arrêté. Donc, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, on est dans un mythe résistentialiste où tous les Français sont beaux, tous les Français sont gentils, tous les Français ont été des résistants, on a été tous des gars très bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a entretenu cette sorte de vision très gaullienne de la France que voulait le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a pas voulu la chasse aux sorcières. Il n'a pas voulu la chasse aux sorcières. On a arrêté 360 000 Français à la Libération. La moitié, 180 000, il y a eu des non-lieux. Des non-lieux, des gens, il n'y avait rien dans le dossier. On a jugé 180 000 personnes, dont dégradation civique, condamnation, mais vraiment condamnés. On a condamné 760 à la peine de mort. 760 à la peine de mort, dont sur les 760, simplement une cinquantaine ont été exécutés. À part ceux qui ont été exécutés à chaud, hein, bien sûr, ça, c'est autre chose, ceux qui ont été exécutés à chaud. Et on peut dire qu'on a surtout visé les chefs d'entreprise. Non, on a surtout visé, pardon, les politiques. On n'a pas tué les chefs d'entreprise parce qu'on a besoin d'eux pour la reconstruction. Donc qui a été touché? Les hommes de lettres, les journalistes, tous ceux à qui on pouvait montrer leur écrit. T'as écrit ça en 42, mon gars. Ça, tu peux pas t'en passer, t'as écrit ça. Ça, eux, ils ont souffert. Eux, ils ont souffert. Et à Lyon, par exemple, j'ai une étudiante qui, par hasard, est tombée sur des archives qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Bon, je ne dirais pas le nom du grand constructeur à Lyon. Elle est tombée sur des archives et qui a travaillé. Alors, on a décidé que si vous travaillez 49% pour l'Allemagne, vous n'étiez pas un collabo. Voilà. Mais si vous travaillez 51% pour l'Allemagne, vous étiez un collabo. Voilà. Donc, il fallait montrer qu'on était à 49%. Quoi. 49%. Je comprends les patrons, il fallait bien faire tourner les boîtes, hein, il fallait tourner les boîtes, et puis ça faisait travailler les ouvriers, et puis ça permettait d'engager des résistants qui avaient des faux papiers. Par exemple, Raymond Aubrac, il avait des papiers comme quoi il travaillait dans une usine, et quand il était arrêté, il disait qu'il était représentant de l'entreprise, et pour ça qu'il pouvait se déplacer en France, parce qu'il avait un bulletin de salaire, il avait des papiers payés par l'entreprise. Bon, et puis les patrons jouaient sur les deux, comme ça, sur les deux tableaux, et ça leur permettait de pouvoir passer. Bah, c'est français, quoi. C'est Mr. Jekyll and Dr. Hyde. Hein. Moi, je crois que ces rapports franco-allemands sont des rapports de voisinage. C'est pour ça qu'entre l'Ukraine et la Russie, c'est quand même des cousins. Hein. C'est quand même des cousins. Hein. Nous, on est cousins germains. Eux, ils sont cousins slaves. Ils sont cousins slaves. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère que ça se passera bien. Comment ?
Ils ne sont pas cousins avec la partie ouest.
Non,
ils sont pas... La partie polonaise, non.
La partie polonaise, non, mais les Russes. Il faut reconnaître que c'est quand même Khrouchtchev qui a donné la Crimée à l'Ukraine. L'Ukraine, la Crimée est traditionnellement russe, il faut bien le dire. Dès qu'on travaille. Ah, mais les Tatars, c'était des Turcs qui restaient. À l'époque, elle était turque, la Crimée. Elle était ottomane. Donc, Donc c'est vrai que si on, l'histoire a toujours un facteur explicatif. Toujours un facteur explicatif dans des tensions qui restent. C'est pour ça que dans, je vous garantis, aujourd'hui, vous allez en Slovaquie, dans le sud de la Slovaquie, tous les villages au sud de la Slovaquie ont les panneaux en hongrois. On les panneaux en hongrois. Et toutes les écoles sont en hongrois. Elles ne sont pas en slovaque. Quand vous allez en Roumanie de l'ouest, en effet, en Transylvanie, ben, tout en Transylvanie, tous les panneaux sont en hongrois. Aujourd'hui, il y a des revendications, puisque les minorités visibles peuvent se revendiquer. Les Hongrois revendiquent le fait d'avoir été volés en 1919 au traité du Trianon. Traité de Trianon. Voilà. Bon, ben, je pense que vous êtes un non-stop de conférence. Ah, monsieur, allez-y.
Oui, comment explique-t-on la position des églises chrétiennes après la crise de 29 en Allemagne, aussi bien de l'église romaine que de l'église luthérienne?
Bon, globalement, les luthériens ont relativement ont d'abord fermé les yeux et il y a eu une résistance luthérienne en Allemagne, indiscutablement sous Hitler. Les catholiques, on a beaucoup fait le procès, en effet, au pape d'avoir tardé à condamner le nazisme, ce qu'il a fait. Dans Mit Brennender Sorge, il a quand même condamné en 38 le nazisme comme contraire à, disons, à l'esprit de l'Église. Si je parlais de Mgr Tiso en Slovaquie, c'est que Mgr Tiso en Slovaquie était bien évidemment, avec l'exemple soviétique à côté, le stalinisme est une église, il a détruit l'église. Face au danger communiste, on préférait une alliance avec Hitler qui préservait en effet l'église. Donc je comprends l'église, même si on lui a fait ce procès d'avoir pas été très clair, l'église catholique, les protestants ont été beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus engagés, les protestants, hein, même si il faudrait faire ça une étude fine, hein, il faudrait une étude fine. Mais si je prends par exemple, moi, l'église française, lors de la déportation des Juifs de 1942, il y avait 83 évêques en France. Sur les 83 évêques, 32 ont condamné la déportation des Juifs. 32. Le premier, c'est l'archevêque de Toulouse, et qui l'a fait. Et il a fallu attendre le 8 septembre 1942, voir le cardinal Gerlier, cardinal de Lyon, condamné, prima de Gaulle, donc premier de Gaulle, condamné la déportation des Juifs, tout en ayant une fidélité au maréchal. Ça veut dire qu'il y avait cette ambiguïté, les Juifs sont nos frères, mais il faut comprendre les difficultés du maréchal. Donc c'est-à-dire on ne rompt pas avec le maréchal, on ne rompt pas avec le maréchal. Le maréchal est quand même a remis l'alliance entre le trône et l'autel, a remis l'alliance. Pour... Et l'Église catholique n'a toujours pas digéré à l'époque 1905, elle n'a pas digéré 1905. La loi sur la laïcité, elle n'a pas digéré. Monseigneur Mayol de Loupé, archevêque, évêque de Viviers en Ardèche, écoutez bien, Mayol de Loupé, évêque de Viviers en Ardèche, dit le jour de la défaite de 40, c'est la revanche de 1789. La revanche de 1789, c'est même pas de 1905. Ça veut dire que l'Église regarde 1789. Alors bien sûr, Mayol de Loupé, il est isolé, il fait partie des éléments durs de l'Église catholique, mais il ne reste pas moins que c'est quand même un courant qui a dans l'Église. Pour ça, les choses sont très compliquées. Les choses sont très compliquées. Et être nuancé me paraît vivre des moments difficiles. Je crois qu'il faudrait revivre ces moments difficiles à l'aune de ce que peuvent être les gens. Par exemple, Henri Freinet, le grand résistant de combat. Freinet, qui est de Lyon, sa mère, elle est d'Ainay, elle est du quartier très catholique d'Ainay à Lyon. Quand elle arrive, il vient manger chez sa mère, alors qu'il était capitaine, Freinet. Il était à Vichy avant de passer dans la résistance. Et elle lui dit, Henri, si tu dis du mal du maréchal, tu t'en vas. Voilà. Et donc, Henri, quand il arrive chez sa mère, il y avait le portrait du maréchal et il mangeait sur le portrait du maréchal. Hein, il mangeait le portrait du maréchal. Et j'ai appris un truc tout à fait original. L'autre jour, en 1942, quand les Français ont libéré la Tunisie, en 1942, après le débarquement américain dans les jeeps, Franco qui attaque la Tunisie à partir de février 43, quand on attaque, on va coincer les Allemands en Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont sur les jeeps comme photo? La photo du maréchal Pétain. Et ils n'ont pas la photo de De Gaulle. Ils ont la photo du maréchal Pétain. Oui, donc, bref, compliqué.